France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Sofas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Des coups de gueule, des portes qui claquent, de l'intimidation, parfois des menaces, souvent. Bienvenue dans les coulisses de la diplomatie, celle qui négocie les accords entre les grands de ce monde. Arte vous propose à partir de ce soir la série The Deal, une fiction qui a pour décor un palace suisse et qui vire au thriller géopolitique. De nouvelles sanctions contre l'économie russe, même pas mal, répond la Russie, pas si sûre, nous dira Frédéric Saïs dans Le Monde à l'endroit. Le reportage nous emmènera au Brésil, en tournée avec les chanteurs lyriques de l'Opéra de Paris. On parlera d'espionnage en Allemagne dans Sous les radars ou encore des sites porno anglais en berne en ce moment. Enfin, dans la Tech la première, quand la voix supplante vos pouces, le numérique chasse l'écrit de nos vies.
L'accès à la culture se fait de moins en moins par les livres écrits. On est en train d'assister à une génération qui ne connaît plus Balzac, qui ne connaît plus Zola. Ils sont en train de se faire un autre référentiel culturel.
Mais pour l'instant, on part en Suisse.
Je vous garantis que les intérêts de l'Iran seront respectés.
Nous ne devons rien céder sans contrepartie.
10 milliards, c'est ce que nous demandons avant toute négociation.
Vous nous prenez en otage !
Voilà, 2015, dans un hôtel de Genève, un huis clos diplomatique infernal, l'ultime séance de négociation sur l'encadrement du programme nucléaire iranien. C'est l'aboutissement de 20 ans de travail des meilleurs diplomates autour des centrifugeuses ou encore de l'uranium hautement enrichi. Bienvenue dans The Deal, l'accord en bon français, une nouvelle série diffusée dès ce soir sur Arte. On passe derrière les épaisses portes en bois dans les coulisses des discussions entre coups de gueule et intimidation. On y découvre la raideur du protocole et la voracité des décisionnaires. Bonsoir Jean-Stéphane Bron.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le réalisateur de cette série que vous avez créée avec Alice Winocourt. Vous nous emmenez donc dans le secret des grandes négociations et la diplomatie n'est absolument pas feutrée.
C'est ce qu'on a voulu raconter. Effectivement, je pense qu'on vit tous, et encore plus fortement encore peut-être maintenant, avec ces images officielles, Trump, Zelensky, enfin. Et la série raconte qu'est-ce qui se passe derrière ces images.
Alors, nous voilà au plus près des délégations iraniennes, américaines, européennes, russes et chinoises, dans un moment crucial. Pourquoi avoir choisi ce moment-là et cette négociation-là ?
Il y a deux raisons. Je pense qu'il y a une raison géographique. Je viens de Lausanne. Les négociations se passaient à Genève. J'ai eu un intérêt comme documentariste. J'ai passé presque ma vie à filmer les coulisses du pouvoir. Donc j'avais c'est les négociations que j'ai suivies. Et pourquoi ces négociations-là ? Parce que je pense qu'on a eu l'intuition avec les auteurs, autrices de cette série, que ça pouvait raconter un moment de bascule. C'est-à-dire, c'est encore un moment où on se met autour d'une table, on décide de se mettre d'accord sur quelque chose, et il y a des Russes, des Américains, des Chinois, des Iraniens, l'Europe. Et difficile d'imaginer cette situation aujourd'hui.
Alors, vous êtes documentariste, vous le disiez il y a quelques secondes. Dans quelle mesure vous collez au réel ? Et comment vous avez travaillé ? Comment vous êtes-vous documenté ? Parce qu'on a vraiment l'impression d'être au cœur du réacteur, là.
Alors, c'est extrêmement documenté. Il y a des recherches qu'on a faites menées pendant 2 ans sur les dynamiques politiques, sur les enjeux politiques, sur même les détails du protocole. Enfin, toute une série de... Enfin, toutes ces questions-là nous ont passionnés. Donc, on a plongé là-dedans. Et après, évidemment, on s'est autorisé.
Sur quelle base ? C'est ça que je veux comprendre.
Il y a plein de sources. Alors d'abord, toutes les sources documentaires qui sont c'est des négociations qui étaient extrêmement suivies à l'époque, puisque un diplomate qui a suivi ces négociations depuis 2003, donc vraiment sur un temps long, disait encore, au moment de cet accord, c'était l'accord ou la guerre.
Oui.
Et on se met autour d'une table, soit pour éviter la guerre, soit pour les terminer. Et donc, il y avait quand même un climat d'extrême tension internationale et donc une volonté d'aboutir un peu à tout prix. Donc il y a quelque chose déjà là qui était presque une dramaturgie. Donc c'était extrêmement suivi par la presse internationale. Il y a eu un grand documentaire de la BBC avec des acteurs du premier cercle, deuxième cercle. Et nous, par la bande, on a eu accès à toutes sortes de types d'informations, y compris par le protocole suisse, etc.
Vous avez rencontré le chef du alors, protocole pas, suisse
oui, alors...
ou la chef du protocole, je ne sais pas.
Alors, ce n'était pas une chef, c'était un chef. Et
il a accepté vraiment de vous livrer...
Alors, c'est des gens qui nous ont alors, raconté plein de choses sous le sceau du secret. On dira pas leur nom, etc. Il y a des gens... Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous, on est dans une temporalité où on a ramené dans notre arène, dans notre hôtel, dans ce huis clos, des événements qui peuvent s'être passés à différents moments.
D'accord.
Et donc...
Donc vous avez fait un best-of, hein, en
quelque sorte. C'est pas un best-of, c'était vrai.
Fictionné.
Non, c'était vraiment essayer de coller au plus près des faits. Je pense que là, vraiment, on est sur les dynamiques politiques, sur ce qui se passe à l'intérieur d'une délégation.
On va y venir parce qu'il y a un double fond sur l'histoire des délégations, mais c'est vrai que vous nous faites entrer, en fait, nous, spectateurs, dans ce huis clos, avec votre personnage central qui est la chef du protocole, qui deviendra ensuite chef des négociations. Elle s'occupe de tout, des prises de parole devant la presse, des négociations secrètes, même des bouteilles qui sont dans les chambres, alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que dans la vraie vie, ça va aussi loin que ça?
Ça va même plus loin que ça, puisque dans un des hôtels, il y avait des petits angelots dans des alcôves nus et qu'on a demandé à les recouvrir d'un voile pudique.
Ça, c'est vrai. Et l'histoire des bouteilles
aussi, pareil.
Que la délégation iranienne fait retirer de sa chambre
Oui, parce qu'il y avait un bar assez imposant dans l'axe des caméras et il ne fallait pas que le ministre soit éventuellement pris avec un fond d'alcool.
La climatisation?
Ça, non, évidemment.
Ça, non, hein. Bon, d'accord. Bah, non, moi, j'essaie d'en savoir plus.
Non, sur toute la partie, on va dire, intime des personnages, évidemment, là, on a tout inventé.
Évidemment. Quel est le rôle exact d'un chef du protocole, si vous arrivez à nous le résumer?
Alors, je vais le résumer d'une phrase qui n'est pas de moi, qui est du chef du protocole qui nous a lu et relu chaque épisode, qui dit « Le protocole, c'est la mise en scène du politique. » C'est-à-dire, c'est vraiment... Il dit « Moi, j'ai un script au début de la journée, et ce script, évidemment, on sort toujours du script, mais enfin, on se fait une idée de ce que va être la scène, de comment est-ce que... » C'est à la fois un travail d'une très grande discrétion, mais en même temps d'une grande autorité. Il nous disait, à un moment donné, quand vous êtes face à Joe Biden, qui n'est pas tout à fait bien positionné, il faut pouvoir le dire, il faut une certaine autorité aussi.
Donc... Il y a à la fois de la raideur, on la sent, d'ailleurs son personnage est très raide, elle le joue de manière très raide, physiquement, hein. Et cette méfiance aussi vis-à-vis de tout le monde, elle a des yeux partout.
Alors ça, c'est le personnage qu'on a inventé, qui est une sorte de fusion de toutes sortes de personnages. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est une chef du protocole, à la fois, c'est une facilitatrice, elle est beaucoup de choses.
Ensuite, elle devient effectivement, on va dire, négociatrice en chef.
Chef de mission, c'est ça.
Voilà, ouais. C'est elle qui doit faire aboutir les discussions. Elle engage aussi l'image de son pays. Et au moment où elle prend ses fonctions, voilà ce que lui dit son prédécesseur.
J'ai fait ça pour la Suisse, bien sûr. C'est bien beau de parler farci, mais le poste nécessite un peu plus que ça. Un travail politique, ça ne s'improvise pas. Il faut avoir les nerfs solides. Ce qui n'a pas toujours été ton cas, notamment à Téhéran. Tu vas être très seul.
Tu vas être très seul. C'est vrai que c'est un rôle, finalement, de go-between, d'entremetteur très solitaire.
Alors, je ne le sais pas annoncer. Je pense que c'est un travail d'équipe, mais je pense que la figure du facilitateur, effectivement, c'est quelqu'un qui, à la fin, c'est vraiment comme dans une... C'est l'idée de maintenir, que tout le monde reste autour de la table. Mmh. Et comme beaucoup menaçaient de quitter la table... Ça lui donne beaucoup de travail.
Alors, vous ajoutez des éléments de fiction pure, mais en toile de fond, il y a le feu vert de Barack Obama, le blocage de Netanyahou, et des personnages puissants comme la sous-secrétaire d'État américaine qui négocie, sauf quand le secrétaire d'État préfère prendre la lumière à sa place.
Autre anecdote vraie.
Ça ne m'étonne pas. Et le ministre des Affaires étrangères iranien sous la surveillance étroite des gardiens de la Révolution. C'est vrai aussi, ça?
Oui, je pense qu'à ce moment-là, il était effectivement, si ce n'est contrôlé, du moins surveillé, effectivement. Il y a deux grands courants, c'est une société complexe, et on essaie de rendre hommage aussi dans la série à cette complexité. Mais effectivement, il y avait une ouverture du côté du ministère des Affaires étrangères, qui dépend, non pas des gardiens de la Révolution, mais qui dépend du président, et des gardiens qui dépendent
qui
de l'armée du guide.
Qui est un homme politique, en fait, tout simplement. Ouais. Alors, est-ce qu'on négocie aujourd'hui de la même manière qu'il y a 10 ans, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Bonsoir Isabelle Labéry.
Bonsoir.
Envoyée spéciale de France Inter à Atlanta, merci d'être en direct avec nous Isabelle. L'accord récent entre Israël et le Hamas a été noué sous l'égide de Steve Witkoff et Jared Kushner, deux proches de Donald Trump qui n'ont jamais été diplomates.
C'est vrai que là, c'est très particulier. Ils n'ont jamais été confirmés par le Sénat à quelque fonction que ce soit, jamais été ambassadeurs. Ils ne dépendent pas non plus du département d'État. Steve Witkoff a été nommé émissaire spécial, mais Jared Kushner, lui, n'a même pas de titre officiel. C'est simplement l'ancien conseiller principal du premier mandat de Donald Trump. Tous les deux ne rendent compte qu'au président, qui les a nommés parce que ce sont des hommes d'affaires, qui viennent comme lui de l'immobilier et parce qu'ils font aujourd'hui partie de son premier cercle. Vous savez que Jared Kushner est marié à sa fille, Ivanka, mais Trump le repère dès 2007 quand il achète, à 26 ans, un immeuble à 1,8 milliard de dollars, record absolu de l'immobilier à New York. This kid has balls. Le gamin, il a des couilles, pardon pour l'expression, c'est ce que dit alors Donald Trump, qui en fera l'homme des négociations impossibles sur le plan diplomatique. Steve Witkoff, lui, il apparaît dans les années 80 comme avocat immobilier. Aujourd'hui, il joue au golf avec le président, il fréquente les mêmes cercles d'affaires. Et alors lui, pour se former à la diplomatie, il a lu des ouvrages, regardé des documentaires sur les conflits internationaux, convaincu qu'une approche extérieure peut réussir là où les experts ont échoué. Et c'est vrai que c'est lui le négociateur en chef de la diplomatie parallèle. C'est lui, par exemple, que Vladimir Poutine a reçu plusieurs fois en grande pompe au Kremlin.
Et d'ailleurs, ils n'ont ni l'un ni l'autre jamais cessé de faire des affaires, Isabelle.
Oui, c'est vrai que le mélange des genres est la norme à la Maison-Blanche. Je ne sais pas si c'est la même chose en Suisse, mais Steve Witkoff, par exemple, lui, il détient encore des parts dans une société de crypto-monnaie qui est liée à la famille Trump, qui vient de recevoir 2 milliards de dollars d'un fonds souverain d'Abu Dhabi. Et puis Jared Kushner, lui, il vient de rejoindre cette année le club des milliardaires américains. C'est grâce à sa société de capital investissement Affinity Partners, dont les principaux bailleurs sont saoudiens. Avec Riyad, il a d'ailleurs acheté un géant des jeux vidéo, Electronic Arts. Mais Affinity a aussi des parts dans une société de services financiers israélienne. Et toutes ces transactions, en fait, ont été facilitées par les contacts qu'il a noués quand il était au gouvernement et qu'il négociait les accords d'Abraham pour normaliser les relations d'Israël avec les pays arabes. Aujourd'hui, c'est un canal privilégié pour les investisseurs du Golfe qui veulent investir dans le secteur privé israélien. La reconstruction de Gaza lui offre aussi de belles perspectives. Certains s'émeuvent du risque de conflit, mais il est écrit de conflit d'intérêts, mais il est écrit que sous Donald Trump, la paix passera par le business et vice-versa.
Merci Isabelle Labéry. Donc The Deal aujourd'hui, pour reprendre le titre de votre série, Jean-Stéphane Bron, c'est du business.
Isabelle. Alors, je pense pas que ça peut se résumer à ça. Je pense que dans le cas précis, il y a évidemment un mélange des genres, mais je pense que la...
Qu'est-ce qui a changé selon vous, par exemple dans votre pays?
Alors, en Suisse, disons, je pense que la Suisse reste un pays d'accueil, en tout cas, à cette volonté d'accueillir des négociations internationales. Je pense qu'il y a une concurrence aujourd'hui entre pays. À l'époque, elle était entre la Suisse et la Norvège, par exemple, et l'Autriche. On en fait quelque chose dans la série, une rivalité entre la déléguée européenne et notre...
Qui est savoureuse, je dois dire.
Et qui est une fusion de plein de personnages. J'espère que les Français nous auront pas, parce qu'ils ont joué un rôle important dans ces négociations. On a gardé des délégués européens, une femme, elles étaient très importantes dans cette négociation, et on a fondu plusieurs personnages en un personnage. Et effectivement, elle est en rivalité avec notre héroïne.
Et vous faites dire à quelqu'un, on est diplomate, on n'agit pas à titre personnel.
C'est vrai.
On est au cœur du sujet, en fait. C'est au-delà d'eux-mêmes, mais c'est à la fois aussi beaucoup d'eux-mêmes.
Alors, c'est ça qui était très... Nous, on a chaque fois qu'on tombait... Alors, je vous disais tous ces faits qui nous... Chaque fois qu'on tombait sur quelque chose qui nous semblait intéressant pour la fiction, on l'intégrait. Évidemment, chaque fois qu'on tombait sur quelque chose d'humain, on l'intégrait. Et il y a dans les mémoires de Wendy Sherman, qui était notre modèle, disons, qui a écrit ses mémoires, qui consacre une grande partie de ses mémoires à ces négociations, raconte comment la dimension humaine joue. Et qu'ils ne sont pas des politiques qui parlent à travers des caméras qui les filment. Ils sont enfermés dans une pièce seuls et ils travaillent pour un pays et des intérêts.
Merci infiniment Jean-Stéphane Bron. The Deal, c'est votre série, 6 épisodes, elle est diffusée à partir de ce soir sur Arte et on peut aussi la retrouver en intégralité sur arte.tv. Merci d'être passé par le studio de France Inter. La suite, c'est avec vous Frédéric Saïs. Tous les soirs, vous remettez le monde à l'endroit.
La Russie visée par de nouvelles sanctions, mais au fait, comment se porte l'économie russe?
Et ce sera juste après ça. La voix profonde du bluesman de Louisiane, Robert Finley, Helping Hands, extrait de son troisième album. Il ne s'est mis à chanter qu'à l'âge de 63 ans, au moment où il a commencé à perdre la vue. Il en a 71 aujourd'hui et il est dans la playlist de France Inter. Frédéric Saïs et Le Monde à l'endroit.
How dare you?
The world has changed.
Christelle Rebière. Le 18-20.
Frédéric, les Occidentaux ont décidé de taper encore plus fort la Russie au portefeuille.
Jusqu'où pourra-t-elle financer son effort de guerre ? La Russie visée par un 19e paquet de sanctions approuvé aujourd'hui par les Européens, dans le viseur notamment les navires de la flotte fantôme qui permettent à Moscou d'exporter clandestinement son pétrole. Washington aussi frappe fort. Donald Trump a décidé de sanctionner deux géants du pétrole, les groupes Rosneft et Lukoil, des machines à cash pour le budget russe. Un quart de ce budget provient de la vente des hydrocarbures. Il s'agit donc d'assécher l'économie russe, de faire en sorte que le prix à payer soit inacceptable pour Vladimir Poutine. Cela rappelle la maxime attribuée à Bismarck, le dirigeant prussien. Est-ce que je veux vraiment la guerre ? Bien sûr que non. Je veux la victoire. Eh bien, les Américains et les Européens espèrent que la guerre, comme la victoire, apparaissent désormais trop coûteuses aux yeux du président russe.
Et est-ce qu'on sait si ces sanctions ont un effet réel sur l'économie russe ?
Alors ce matin, le ministère russe des Affaires étrangères a plastronné en réaction à ces nouvelles sanctions. L'économie russe est immunisée, a expliqué la porte-parole, sur le mode « même pas mal ». Alors c'est vrai que depuis plus de 3 ans que dure cette guerre, l'économie russe ne s'est pas effondrée. Néanmoins, elle ne va pas bien, malgré l'opacité des statistiques. On sait que cette année, la croissance est quasiment nulle. Les recettes pétrolières sont en baisse, moins 20% par rapport à l'an dernier. Les consommateurs souffrent d'une inflation à plus de 10%. Les taux d'intérêt sont à 17%, ce qui freine évidemment l'investissement. D'ailleurs, en dehors de l'industrie militaire, les autres secteurs souffrent, victimes de pénuries de main-d'œuvre et de coupes budgétaires pour financer bien sûr l'effort de guerre. À tel point que Moscou doit trouver de nouvelles recettes. Le gouvernement russe vient d'augmenter la TVA de 2 points. Il a aussi élargi l'assiette de plusieurs impôts. C'est donc la population qui est directement mise à contribution. Côté européen, on veut y voir un indice de l'efficacité des mesures adoptées. L'envoyé spécial de l'Union européenne sur cette question, David O'Sullivan, utilise une métaphore. Les sanctions, c'est comme un clou dans un pneu. Le pneu n'éclate pas tout de suite, mais il se dégonfle progressivement.
Cela dit, ces sanctions sont appliquées quasi exclusivement par les pays occidentaux, ce qui limite leur portée.
C'est vrai, les sanctions viennent du G7 et de l'Union européenne, plus l'Australie et la Suisse. Or, les deux premiers clients du pétrole russe s'appellent la Chine Et l'Inde a, elle, de plus de 80% des recettes. Voilà donc pourquoi Donald Trump impose des droits de douane massifs aux produits indiens. 50%, c'est pour obliger New Delhi à renoncer à acheter des hydrocarbures russes. Le président américain assure d'ailleurs qu'il a reçu cette promesse de la part du Premier ministre indien, mais ce dernier ne confirme pas. De son côté, la Chine nie toute vente d'armes à la Russie. En revanche, elle lui fournit des composants et de l'électronique, toutes sortes de matériaux qui peuvent alimenter l'industrie militaire et plus globalement la résilience de l'économie russe. D'après l'envoyé spécial de l'Union européenne, les entreprises basées en Chine et à Hong Kong sont responsables de 80% de l'envoi de matériel interdit, un contournement qui effrite l'efficacité des sanctions pourtant massives. En somme, l'addition est salée pour la Russie, mais elle a les poches profondes.
Merci Frédéric et à lundi. Le reportage d'un jour dans le monde nous emmène, si, au Brésil. Et comme vous l'entendez, la musique brésilienne ne se résume pas à la samba ou à la bossa nova. Le pays compte de nombreux compositeurs de musique classique, par exemple Villa-Lobos, mais il y en a beaucoup d'autres. Dans le cadre de l'année culturelle France-Brésil, des chanteurs lyriques de l'Académie de l'Opéra de Paris achèvent en ce moment leur tournée. La suite, c'est notre correspondante à Rio de Janeiro, Sara Cozzolino, qui nous la raconte.
Le baryton Luiz Felipe Souza, de 27 ans, interprète Estrela do Mar, étoile de mer, du compositeur brésilien Marlos Nobre. Un chant dédié à Iemanjá, la déesse de la mer, figure incontournable des religions afro-brésiliennes.
Énormément heureux de pouvoir partager avec le public brésilien le travail qu'on fait à Paris avec l'Académie, le travail d'un niveau tellement haut.
La soirée s'intitule Melodias Brasileiras et Mélodies Françaises. Elle propose de faire dialoguer les musiques classiques brésiliennes et françaises à travers des compositions allant de Heitor Villa-Lobos à Eric Satie, en passant par des compositeurs brésiliens moins connus. La musique de Villa-Lobos, qui a vécu en France, s'est nourrie de la tradition européenne, mais porte aussi en elle les influences brésiliennes. C'est la première fois que l'Américain et Norvégien Bergstein Toverud, élève de l'Académie, visite le Brésil.
Et maintenant, parce que je suis ici au Brésil, j'écoute tout le rythme, toute la musique dans la langue que je parle dans la roue. Et j'ai trouvé un autre niveau avec la musique de Villa-Lobos. Parce que je suis ici. C'est une autre atmosphère.
Sur scène, 6 jeunes chanteurs lyriques et 2 pianistes font face au public brésilien. Solo, duo, polyphonie, les formes varient. C'est une étape incontournable de leur formation, selon Myriam Azouzi. Elle a fondé et dirige l'Académie de l'Opéra de Paris depuis 10 ans, un lieu de transmission, de formation et de création.
C'est toujours important dans ces moments de tournée, de la rencontre musicale entre les musiciens et les chefs d'orchestre du Brésil et puis les artistes formés en France. Et puis c'est évidemment une tournée, c'est une grande expérience pour les artistes de l'Académie parce qu'ils vont répéter les programmes, les concerts plusieurs fois avec des orchestres différents. Donc ça va leur donner une grande expérience professionnelle.
Et le public est au rendez-vous, les places sont gratuites et elles se sont envolées dès l'ouverture des portes. Robson Leitan, la soixantaine, est venu de la ville voisine de Niterói pour assister au concert.
Nous n'avons plus de grandes productions d'opéra, comme c'était le cas avant au théâtre municipal de Rio de Janeiro. Et c'est assez rare de pouvoir écouter des chanteurs étrangers. Donc c'est une belle opportunité, même s'il s'agit de jeunes chanteurs. Ils sont pleins de talent.
Moment suspendu, l'entrée en scène de Lorena Pires sur la mélodie sentimentale de Villa-Lobos. C'est la première brésilienne à entrer à l'Académie. Une chanteuse noire, aux origines modestes. Son histoire, mais surtout sa voix, ronde et puissante, fascine Robson.
Ici au Brésil, c'est très difficile pour un chanteur lyrique noir d'acquérir une certaine reconnaissance. Et elle a réussi. Je trouve ça merveilleux parce qu'elle a le potentiel pour ça, et un sacré potentiel.
Pour clôturer la soirée, Yucali de Kurt Weill réunit toutes les voix dans une mélodie riche où les chanteurs s'amusent et transmettent leur joie au public. Anna Cristina Lima repart le cœur léger.
Muito interessante.
J'ai trouvé ça très intéressant, décontracté. C'est justement ça qui permet de rendre plus accessible la musique classique au lieu d'être réservée à une caste, à une élite qui se sent légitime. Non, je pense que la musique est accessible à tous, qu'elle unit les personnes, les peuples.
Sarah Cozzolino à Rio, merci. La suite, c'est Guillaume Audin que vous venez d'entendre, qui rattrape ces news qui sont passées sous les radars.
Oui, sous les radars et face caméra, une descente policière anti-migrant à New York, la descente de trop et qui choque la grosse pomme.
Et la tech, la première, Stéphane Jourdain nous annonce ni plus ni moins la fin de la civilisation de l'écrit. Restez avec nous, on se console avec du jazz sud-coréen, Yoon Sun Na qui vit à Paris, White Rabbit.
And one pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small. When the men on the chessboard get up and tell you where to go, and you've just had some kind of mushroom and your mind is moving low, go ask Alice, I think she'll know.
White Rabbit, Yoon Sun Na qui a repris ce morceau de Jefferson Airplane. Sous les radars, Guillaume Audin.
You know, it's hard to believe that this is Manhattan and it's 2025 and it looks like a war zone out here.
Impossible de reconnaître Manhattan, nous dit cette journaliste new-yorkaise. On est en 2025 et on a l'impression d'être en pleine zone de guerre.
Voilà, et cette scène, elle a eu lieu mardi dans le sud de Manhattan, donc quartier plutôt bien fréquenté. Et là, vous avez cette reporter de News Nation, une chaîne locale. Elle est en direct quand soudain, toutes sirènes hurlantes, une série de véhicules blindés, une cinquantaine d'agents cagoulés, ils sont armés, débarquent sur zone. C'est la police anti-immigration, la fameuse ICE dont on parle tant et qui multiplie sous Trump les interventions extrêmement musclée, à la recherche, affirme-t-il, d'immigrés clandestins. Une descente spectaculaire, chaotique dans les environs de Chinatown, où de manière indiscriminée, des dizaines de personnes ont été arrêtées, à la fois des suspects, en tout cas à leurs yeux, mais également des New-Yorkais qui protestaient contre ces méthodes. 4 citoyens américains ont été détenus 24 heures sans motif. Colère de la procureure générale de New York. Elle a lancé hier un portail en ligne pour que les habitants transmettent désormais photos et vidéos de ces interventions fédérales destinées, dit-elle, à terroriser. La grosse pomme entend contrer par tribunaux interposés ce qu'elle considère être la manifestation pure et très dure d'une dérive autoritaire.
Problematisch ist, dass gezielt nach militärischen Transporten
gefragt wird.
Das Cette voix, c'est celle de Georg Mayer, ministre de l'Intérieur de Thuringe, l'un des 16 Länder d'Allemagne, et il accuse l'extrême droite d'espionner son pays au profit de la Russie.
Voilà, l'AFD, l'extrême droite allemande, une cinquième colonne à la solde de Moscou. L'accusation est lourde et il en veut pour preuve, l'homme qu'on a entendu, les questions problématiques, dit-il. 47 en un an, il a fait le décompte. Questions que posent les parlementaires locaux de l'AFD. Elles ont attrait aux infrastructures critiques, à l'armée ou encore la façon dont la police allemande intercepte les drones. Des demandes, je cite, faites avec une intensité et une précision croissante. L'impression qui se dégage, poursuit-il, est que l'AFD travaille avec ces questions à partir d'une liste commandée par le Kremlin. Alors évidemment, le parti de l'extrême droite allemande, très très haut dans les sondages, s'en défend vertement. Deux éléments tout de même de contexte à verser au débat. D'abord, l'AFD d'Alice Weidel, sa chef de file, réclame depuis longtemps la fin des livraisons d'armes à l'Ukraine pour un accord de paix au plus vite, c'est sa position. Et deuxième point, une déclaration, l'AFD collabore avec la Russie pour nuire gravement à notre pays. Là, c'est ni plus ni moins que le vice-président de la commission des contrôles des services secrets allemands qui le dit.
Au Royaume-Uni, la fréquentation des sites porno est en chute libre. C'est le résultat d'une politique de vérification très sévère adoptée outre-Manche.
Voilà, et c'est le très sérieux Financial Times qui s'en fait l'écho ce jeudi. Le quotidien ne s'inquiète pas du tout, mais alors pas du tout, là je vous rassure, des pertes de revenus conséquentes enregistrées par les mastodontes du porn sur le marché britannique. Bien au contraire, dans cette jungle du X numérique, la nouvelle législation du Royaume-Uni marque un tournant salutaire. Carte bancaire, identifiant numérique, validation mobile, le filtrage fonctionne depuis juillet. La fréquentation des sites pornographiques a chuté là-bas de 33% et elle n'est même plus contournée grâce au fameux VPN. Il y a donc un authentique désintérêt. On ne va pas se cacher, c'est une bonne nouvelle car derrière le fun, ça existe aussi, il y a également de très graves formes d'exploitation sexuelle des femmes pour des sommes dérisoires dans des conditions indignes. Preuve que la loi et le bon sens peuvent encore infliger les comportements sur Internet.
Merci Guillaume, à la semaine prochaine. Tout de suite, Stéphane Jourdain, la Tech la première.
France Inter, le 18/20.
Et cette semaine dans la Tech la première, Stéphane, vous nous parlez de la fin de l'écrit et de la fin de la civilisation qui va avec. Après 5 siècles de domination de l'écrit, l'oralité serait en train de prendre sa revanche.
Oui, dans vos téléphones, dans vos cuisines, dans vos chambres à coucher, un peu partout, l'oralité gagne chaque jour des parts de marché. Les preuves ne manquent pas.
Salut Stéphane, c'est que ta chronique est vraiment la meilleure. Allez, bise.
Il y a les messages vocaux, usage qui explose, 7 milliards de vocaux chaque jour sur WhatsApp.
Alexa, quel est le titre du morceau en cours ?
Vous écoutez Get Lucky de l'album Reine de Mexes Memories par Daft Punk.
Les assistants intelligents de type Alexa, plus ou moins aboutis.
Chaque respiration vous enfonce encore plus dans votre coussin ou votre chaise.
La mode des podcasts bien-être comme Petit Bambou. Et puis, bien sûr,
l'oralité gagne effectivement du terrain et les interactions vocales avec des IA en sont un bel exemple. Si tu veux, on peut approfondir certains aspects ou même brainstormer des idées de contenu pour ton podcast.
Ben, les voyons. Chatbots IA, on pourrait brainstormer, Christelle, qui se pratique de plus en plus à l'oral. On pourrait aussi citer le succès des livres audio, les tutos vidéo qui remplacent les modes d'emploi, les recettes sur YouTube qui remplacent les livres de recettes tout court. Je prends possession du monde par les mots, écrivait Saint-Exupéry en 1953. Serait-il remplacé aujourd'hui par « Je prends possession du monde par les vidéos » ?
Et tous ces outils, audio ou vidéo, de plus en plus populaires, on l'entend, sont en train de chasser l'écrit de nos vies.
C'est la thèse développée par Jean-Dominique Séval, économiste, prospectiviste, spécialiste du numérique, dans un livre qui vient de sortir, « La fin de Babel ».
J'ai eu tout d'un coup une espèce d'épiphanie, comme on dit en ce moment, ou de révélation, que l'accumulation de tous ces outils extraordinaires qu'on commençait à avoir pullulé, en fait, avait des conséquences beaucoup plus fondamentales que celles que l'on commente au jour le jour. Puisque ces outils, en fait, si on pousse les curseurs, nous amènent à la fin de l'écrit, et encore plus fondamentalement que ça, nous ramènent à une civilisation orale que nous avons toujours connue. Et finalement, la civilisation de l'écrit aura été une courte parenthèse.
Une courte parenthèse de 500 ans, et ça c'est la thèse d'un autre livre paru en 2023, La parenthèse Gutenberg, du journaliste américain Jeff Jarvis. Il s'explique ici dans une conférence organisée par Google.
L'ère de l'écrit, c'est une exception dans l'histoire. Et donc, comme nous sommes en train d'en finir avec cette ère pour basculer dans celle du numérique, j'avais envie de regarder comment elle avait commencé, pour voir quelles leçons on pouvait en tirer pour gérer au mieux cette transition.
Oui, on l'entend effectivement pour ces deux auteurs. Nous sommes en transition entre deux civilisations.
Un tsunami de l'oral nous tombe dessus, nous dit carrément Jean-Dominique Séval.
Tout tient jusqu'à ce moment donné où il y a une génération qui décroche et je crois qu'on en approche très vite. Moi, j'ai commencé à travailler sur ce livre il y a une dizaine d'années. Quand je parlais du retour de la civilisation de l'oral, on me regardait avec des grands yeux. Et aujourd'hui, toutes les personnes à qui j'en parle, tout de suite, ont mis l'exemple en fait. L'accès à la culture se fait de moins en moins par les livres écrits. On est en train d'assister à une génération qui ne connaît plus Balzac, qui ne connaît plus Zola, qui ne l'ont pas lu ou qui ne le liront jamais, ou en liront des résumés ou des résumés audio. Et ils sont en train de se faire un autre référentiel culturel.
Résultat, nous nous approchons du moment où on pourra passer un an sans écrire.
Ça va très très vite. Il y a une accélération qui est en train de se faire et on peut dire qu'à 10-20 ans, on pourra vivre une année complète sans avoir à écrire jamais. Parce qu'on fera tout à la voix ou quand on aura à écrire, ben on dictera, comme faisait Montaigne pour écrire ses fameux essais.
Ceux qui voudront quand même écrire le pourront, mais ce sera un peu comme la poésie aujourd'hui. Il y en a qui la pratiquent encore, mais on n'en voit pas beaucoup dans le métro.
Et en même temps, Stéphane, l'écrit est encore très présent dans nos vies. Les textos, les pushs des médias, les vidéos sous-titrées.
Et oui, chaque jour, on s'échange peut-être 7 milliards de vocaux sur WhatsApp, mais on s'échange surtout 100 milliards de messages écrits.
J'ai tendance à le comparer à la photocopie. On était submergé par le papier. Maintenant, on a des PDF, on ne les imprime que quand c'est nécessaire. L'écrit, pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est au début de cette vague de l'audio, du fait qu'on parle à ces machines. L'intelligence artificielle accélère ce phénomène. On facilite le passage du texte à l'oral, en fait.
Et pour Serval, ce n'est pas la seule parenthèse qui se referme.
Non, il y a aussi le salariat remis en cause par le retour du travail à la tâche. Le concept de vie privée remplacé par la transparence du village. L'enseignement individualisé qui met à mal l'enseignement collectif et la démocratie directe qui ringardise le parlementarisme indirect. La révolution numérique nous ramène vers le passé, écrit-il, c'est le retour à l'Antiquité.
Alors, bonne ou mauvaise nouvelle ?
Jean-Dominique Séval ne s'en cache pas, il serre un peu les dents.
Alors c'est un peu dur à avaler pour certains, pour moi c'était compliqué, moi je suis un fan du livre et un grand amateur de la littérature du 19e, mais en même temps on ne peut pas se cacher la face.
Mais pour Jeff Jarvis, tout n'est pas perdu. Cette civilisation peut nous réserver de très belles surprises à une condition.
Voilà ce qui pourrait arriver d'après moi. Si on arrive à maintenir un Internet suffisamment libre et ouvert, alors vous verrez qu'on aura des surprises. Et pourquoi pas un jour, un Cervantes, un Montaigne, un Shakespeare, et le type qui a inventé la presse, des gens qui vont nous surprendre, en tout cas, c'est ce que j'espère.
Des nouveaux Montaigne et Cervantes, bientôt sur vos écrans.
Oui, on les espère. En tout cas, toutes ces craintes ne datent pas d'hier.
Et non, écoutez ce jeune philosophe interrogé par la télévision suisse il y a 35 ans.
Je me souviens d'un texte d'un écrivain américain qui disait « Je fais partie de la dernière génération qui s'est formée à travers l'écrit. Est-ce qu'on va abandonner le livre ?»
Écoutez, je pense que cette menace existe, oui. Et là, les enquêtes sociologiques le disent, on nous explique qu'en 10 ans, la télévision a gagné une demi-heure. Il faut bien qu'elle gagne sur quelque chose. Quand est-ce qu'on lit ? On lit le soir. Donc si vous regardez la télévision, vous allez vous coucher à 10h30, 11h moins quart, 11h, vous avez 10 minutes de lecture. C'est le somnifère, on en est vraiment au livre somnifère.
Alain Finkielkraut, donc, vous l'aurez reconnu, on en connaît qui s'endorment plutôt sur leur téléphone portable.
C'est vraiment, enfin, la bonne nouvelle que je voudrais retenir, c'est que l'oral, c'est aussi la radio. Et ça, c'est bon pour nous.
Eh oui, c'est bon pour nous.
Merci, à la semaine prochaine. Nous voilà à la mi-temps de ce 18-20, ne changez rien. La suite, c'est le journal de 19h présenté par Simon Le Baron, puis le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20 et ce soir, on veut entendre Dex Erasmus.
Oui, Sophia Corradi vient de mourir, c'est elle qui a inventé Erasmus, ce programme d'échange en Europe. Patrice, Alsacien, il est allé au Danemark en 99.
Cette expérience a transformé ma vie, j'ai jamais autant appris à travers l'altérité. Sur moi, sur ma culture, sur qui je suis en la comparant aux autres. Et je recommande vraiment à tout le monde de vivre cette expérience. Et merci à Madame Erasmus, merci pour cette expérience.
Charlotte, plus d'Erasmus, c'est moins de haine.
Très intéressant, c'est bien parti déjà au standard 01 45 24 7000.